Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'Église s'intéresse au sport, surtout quand il peut véhiculer les valeurs fondamentales. À l'occasion de la finale du Mondial dimanche au Brésil, un dicaster du Saint-Siège invite à un temps de silence pour demander la fin de l'effusion de sang dans les nombreuses régions qui vivent actuellement des heures dramatiques. Le schisme ne devrait pas avoir lieu au sein de la communion anglicane. Lundi, le synode général de l'Église d'Angleterre devrait entériner définitivement le principe de l'ordination de femmes évêques, mais le climat s'est apaisé. Éclairage dans cette émission. Les chiffres sur l'abus sexuel dans le monde sont effrayants, les dégâts immenses et la tâche considérable. Nous verrons dans ce magazine que le Bureau international catholique de l'enfance a décidé d'intensifier ses actions de prévention, sensibilisation, accueil et accompagnement, assorti d'une politique de protection de l'enfant dans les institutions. Un match de football interreligieux est à l'étude à Rome. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège l'a confirmé. Cette initiative à caractère éducatif a été présentée il y a quelque temps au pape François qui s'y est dit favorable. Mais selon le père Lombardi, il est peu probable que le Saint-Père se rende au stade olympique de Rome pour assister au match. Un match auquel seraient associées des célébrités du football, à la retraite ou en activité, comme Zidane, Baggio, Messi ou Totti. Complément d'information avec Olivier Bonnel.
Le promoteur de ce match pour la paix est le joueur argentin Javier Zanetti, ancien capitaine et futur vice-président de l'Inter Milan. C'est lui qui en coordonne l'organisation en collaboration avec l'Académie pontificale des sciences. Dans les colonnes de l'Osservatore Romano, Zanetti a précisé que les champions du ballon rond endosseront, à cette occasion, les couleurs de la paix. Ce match, qui verra la participation de joueurs de toutes les religions, en signe de paix et de dialogue, devrait se dérouler le 1er septembre. Javier Zanetti, lui-même très croyant, a estimé qu'on pouvait, par le biais d'un match de foot, témoigner des valeurs fondamentales. Les joueurs veulent poser un geste symbolique pour montrer qu'il est possible de construire un monde de paix basé sur le dialogue et le respect réciproque. Ils veulent dire que ceux qui ne pensent pas comme nous ne doivent pas être perçus comme des ennemis, mais comme des opportunités de croissance et d'enrichissement. Et puisque le Saint-Siège et l'Église s'intéressent au sport, le Conseil pontifical de la culture a lancé un hashtag intitulé « Pause pour la paix ». À l'occasion de la finale de dimanche au Brésil, un moment de silence sera observé en mémoire de toutes les victimes des guerres et des conflits dans le monde. Le dicaster souhaiterait que l'on profite de cet événement au retentissement planétaire pour observer, comme dans l'Antiquité, une trêve des combats.
Le sous-secrétaire du Conseil pontifical pour la culture, qui dirige également la section culture et sport, a rappelé dans un communiqué que les événements sportifs étaient nés autour des fêtes religieuses. Dans l'Antiquité, il s'agissait de moments de paix pendant lesquels les guerres cessaient. De son côté, le président du dicaster, le cardinal Gianfranco Ravasi, a publié un tweet sur son compte personnel, une douce petite voix du silence. Et à propos justement du Conseil pontifical de la culture, la religieuse française Marguerite Léna figure parmi les 13 personnalités nommées le 1er juillet par le pape François comme consulteur au sein de ce dicaster. Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, cette philosophe de 75 ans est bien connue pour ses travaux sur l'école et sur l'éducation et a publié de nombreux ouvrages comme « L'esprit de l'éducation »,« Le passage du témoin » ou encore « Honneur au maître » publié en 1980. Avec la collaboration notamment de Paul Ricoeur et Emmanuel Lévinas. Membre du comité de rédaction de la revue de spiritualité ignatienne Christus et auteur de nombreux articles de réflexion, elle est régulièrement sollicitée par la presse chrétienne et des mouvements comme les Semaines sociales pour des conférences. Elle a toutefois été très surprise par sa nomination comme consulteur au sein du Conseil pontifical de la culture.
Ça provoque en moi une très grande surprise. Très grande surprise parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Alors ma deuxième réaction, bien sûr, elle est de reconnaissance. C'est un signe de confiance de la part, bien sûr, de Mgr Ravasi et de Mgr Adoukounou. Mais je dirais à travers eux, Moi, je le reçois comme un signe de confiance de l'Église.
Alors, vous êtes surtout connue pour vos travaux sur l'école, sur l'éducation, à la fois en tant que praticienne, en tant que professeure et en même temps en tant que philosophe. Comment vous réagissez à cette espèce de crise morale que semble traverser l'école actuellement ? On a l'impression souvent que les élèves s'ennuient, que l'acte même de transmission ne fait plus rêver les jeunes générations. Il y a même une crise des vocations pour l'enseignement. Comment vous réagissez à cette espèce de crise morale que semble traverser l'école ?
Mais c'est pas seulement l'école, vous voyez, c'est aussi la famille hein, qui est concernée, c'est aussi l'Église, c'est aussi la société globale. Je crois que la question de la transmission, elle est plus large. C'est la question du lien intergénérationnel. Ensuite, il y a des institutions qui sont plus particulièrement dévolues à ce lien intergénérationnel. Alors effectivement, l'école est, je dirais, aux secondes loges, aux premières loges, c'est la famille, mais aux secondes loges, c'est effectivement l'école. Et c'est vrai que dans une culture à mobilité extrêmement rapide, la tâche de transmission est rendue plus difficile. Et ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, ça ne veut pas dire qu'elle est devenue inutile, au contraire.
Vous qui avez plusieurs décennies d'expérience de l'enseignement, comment vous avez vu évoluer les jeunes ? Est-ce qu'on parle un langage différent à un jeune des années 2000 par rapport à un jeune des années 60 ou 70 ?
J'ai toujours eu affaire à des groupes pas très nombreux quand même, d'étudiants de classe préparatoire. C'est donc un public quand même très particulier, pas du tout représentatif de l'ensemble d'une classe d'âge. Et en plus, un enseignant à la philo, je vais prendre une image, c'est comme une toupie. Plus vous êtes près du centre de la toupie, moins ça bouge. Alors quand vous lisez Platon, Kant ou Hegel, vous touchez des fondamentaux humains. Donc ça bouge moins que si vous enseignez l'évolution de la chimie organique depuis 50 ans.
Alors, quitte à parler de permanence, le fait que le christianisme, le fait qu'on est dans le christianisme et dans le catholicisme, la représentation d'un Dieu enfant, est-ce que ça donne au catholicisme, au christianisme, une expertise particulière dans l'attention à l'enfance ?
C'est une très belle hypothèse que vous faites là. Moi, je ne l'aurais pas spontanément formulée comme ça, mais je retiens votre formulation, parce que je crois qu'elle touche quelque chose de très vrai. D'ailleurs, on peut élargir, vous voyez, dans la mesure où c'est vrai que notre foi de chrétien nous rend attentifs aux situations et aux personnes en situation de fragilité. C'est même plus large que l'enfant. On a reçu de Dieu la certitude que même nos fragilités peuvent être porteuses. C'est pour ça que moi, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête du fait que je suis consulteur au Conseil pontifical de la culture. Je pense que des tâches très modestes sont aussi importantes dans l'Église que ce travail essentiel, bien sûr, qui se fait dans les dicastères romains. Les deux choses sont essentielles, il ne faut surtout pas les opposer.
Quel regard vous portez sur le pape en tant qu'éducateur pour les jeunes ? Quel regard vous portez sur l'homme François comme éducateur ?
Tout ce que j'ai lu de lui sur l'éducation m'a comblé de joie. Parce que, d'abord parce qu'on sent qu'effectivement, tout son être est un être éducateur, fondamentalement marqué par cet amour des jeunes et ce désir de transmettre, qui est quand même le moteur de tout éducateur. Et nous sommes très heureuses dans notre communauté d'avoir un pape qui estime l'éducation.
La philosophe française Marguerite Léna, nouveau consulteur au Conseil pontifical de la culture, interrogée par Cyprien Viette. Le Vatican accueille en cette fin de semaine un atelier de travail intitulé « Le bien commun global vers une économie plus inclusive ». Ce séminaire international qui se déroule à huis clos est organisé par le Conseil pontifical Justice et Paix et par la deuxième section de la Secrétairie d'État. Quelques 70 experts, académiciens, chefs d'entreprise, représentants de la société civile y participent. Des institutions internationales comme la Banque mondiale, l'OCDE, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, le FMI, la FAO et l'OIT ont contribué à son organisation. L'objectif est d'approfondir la perspective d'une économie toujours plus inclusive, soutenue par le pape François dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Une économie à fort taux d'emploi, de meilleure qualité, capable d'investir sur les compétences et la formation, de favoriser la cohésion sociale et territoriale et de permettre aux acteurs de l'économie non traditionnelle de s'épanouir. Le Saint-Père a accepté d'intervenir au séminaire lors d'un moment convivial. Le tourisme est un moteur fondamental du développement économique. Il peut devenir un outil précieux de progrès, créer des emplois diversifiés, favoriser le développement des infrastructures et réduire la pauvreté dans les régions les plus pauvres de la planète. Mais il faut pour cela que les bénéfices aillent au profit de tous les secteurs sociaux des pays de destination. C'est ce que souligne le Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement dans un message publié en vue de la célébration le 27 septembre de la Journée mondiale du tourisme. Selon le Saint-Siège, l'industrie du tourisme devrait le plus possible s'appuyer sur les ressources humaines locales, suivre des critères éthiques qui respectent les personnes, les cultures et l'environnement, favoriser les rencontres et la tolérance, créer des structures de participation des communautés locales. Une destination touristique n'est pas seulement un beau paysage, une infrastructure confortable, souligne le texte, qui salue les nombreuses initiatives de tourisme solidaire ou de volontariat qui fleurissent depuis quelques années. Tous ceux qui travaillent dans la pastorale du tourisme sont invités à multiplier leurs efforts pour apporter à ce phénomène de masse la lumière de la doctrine sociale de l'Église et à promouvoir une culture du tourisme éthique et responsable. La situation juridique des chrétiens au Soudan est très inquiétante, selon un évêque catholique. Dans une interview à la Fondation Aide à l'Église en détresse, Mgr Koussala affirme que les chrétiens sont considérés et traités comme des citoyens de seconde zone, même si la Constitution stipule l'égalité des droits, sans distinction de religion. Manuela Afigi.
Les membres du clergé ont du mal à obtenir un passeport et quand ils parviennent à sortir du pays, ils ne savent jamais s'ils pourront y retourner. De nombreux prêtres ont été expulsés et les évêques sont réduits au silence. Les chrétiens sont autorisés à assister aux célébrations liturgiques, mais les autorités de Khartoum ne défendent pas la liberté religieuse. Mgr Koussala cite le cas de la Soudanaise, Meriam, condamnée à mort pour apostasie, alors que cette jeune femme, qui n'a presque pas connu son père musulman, a été élevée par sa mère dans la foi chrétienne et ne s'est donc jamais convertie. Le gouvernement a laissé les leaders islamiques décider de l'avenir de cette femme et ce n'est que sous la pression internationale qu'elle a été libérée après avoir été contrainte d'accoucher en prison. Avant le verdict, un chef religieux musulman avait en vain cherché à la convaincre de se convertir à l'islam. La discrimination à l'encontre des chrétiens n'est pas un fait nouveau au Soudan, mais depuis la partition du pays en 2011, la situation s'est aggravée dans la partie nord. L'Église catholique, qui s'était prononcée en faveur de la création du Soudan du Sud, est aujourd'hui considérée comme responsable de cette division. D'autant qu'elle ne cesse d'exhorter le gouvernement à garantir la liberté religieuse et de conscience.
Un prêtre catholique a été pris en otage mardi par des voleurs de bétail sur les hauts plateaux centraux de Madagascar. Des malfaiteurs armés ont attaqué un village, tuant 3 personnes et saccageant différentes habitations. Parmi les édifices pris pour cible se trouvait également la paroisse catholique. Les bandits ont pris en otage le vicaire, le père Ferdinand et 3 apprentis du centre de formation agricole. Les otages ont été libérés 2 jours plus tard. Le problème du banditisme en milieu rural est fortement ressenti à Madagascar, même si la zone où a eu lieu cette attaque et n'est pas la plus touchée. La zone chaude se trouve au sud où ces jours-ci, les forces de sécurité sont engagées dans une opération visant à démanteler le réseau de bandits qui saccagent les villages et volent le bétail. Le synode de l'Église d'Angleterre est réuni pendant 5 jours à York. Il promet d'être historique car lundi, un vote sur l'ordination des femmes évêques sera de nouveau organisé. Après avoir été rejeté en 2012, la motion devrait être approuvée. Même l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, s'est prononcé en faveur de cette ordination. Christelle Peer a interrogé Rémi Bettemont, professeur d'histoire et civilisation britannique à Paris 8, en Seine-Saint-Denis, sur les conséquences d'un tel changement. Il écarte le risque d'un schisme interne à la communion et ne pense pas que le résultat du vote aura un impact négatif sur les rapports entre les anglicans et les catholiques.
Il faut remettre les choses déjà dans un contexte international. Les femmes évêques dans l'Église anglicane, ça existe depuis très longtemps. L'Église d'Angleterre n'est pas la seule Église anglicane du monde. L'Église épiscopalienne des États-Unis a commencé à ordonner les femmes évêques dans les années 80. Il y a des femmes évêques dans l'Église anglicane d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada, enfin bon. Donc c'est pas du tout une première dans le monde anglican. L'Église d'Angleterre ne fera que rejoindre un nombre croissant d'églises anglicanes qui ont ouvert l'épiscopat aux femmes. Alors ensuite, au sein de l'Église d'Angleterre elle-même, c'est quelque chose qui arrive, bien sûr, après 20 ans, c'est ça, pendant lesquels les femmes ont eu accès à la prêtrise déjà. Donc c'est, j'ai envie de dire, une étape supplémentaire considérée quelque part comme logique. À partir du moment où on ouvre la prêtrise aux femmes, pourquoi leur laisser l'épiscopat fermé?
Si le vote est positif, est-ce qu'il y a un risque de division dans l'Église anglicaine, de schisme peut-être?
Je ne pense pas. Les traditionnalistes vont voter contre parce qu'ils disent voilà, on est opposé par principe à l'ordination des femmes, donc on ne va pas voter pour une mesure qui leur permet d'être ordonnée. Mais en même temps, alors même qu'ils disent qu'ils vont voter contre, ils disent aussi finalement, on sait très bien que ça a toutes les chances de passer et on est finalement assez satisfait des arrangements qui sont dans cette mesure et qui permettent donc aux traditionnalistes de ne pas devoir subir, entre guillemets, le ministère d'une femme, en particulier pour les relations pastorales et pour l'administration des sacrements. Donc je serais surpris que beaucoup de traditionnalistes quittent l'Église d'Angleterre. Ceux qui voulaient la quitter en raison de mouvements en faveur de l'ordination des femmes, je dirais qu'ils sont déjà partis. Ceux qui sont encore là sont des gens qui sont prêts dans l'ensemble à s'accommoder, de vivre avec une majorité qui est en faveur de l'ordination des femmes à partir du moment où ils ont un certain nombre de mesures qui protègent leur conscience, disons, et ces mesures, ils considèrent qu'ils les ont.
Vous parlez d'arrangements depuis le premier vote en novembre 2012. Quels sont-ils?
La mesure qui est mise au vote lundi renvoie à une déclaration de la Chambre des évêques qui établit un certain nombre de principes qui disent d'une part qu'une femme évêque doit pleinement pouvoir jouir de son autorité, quels que soient les problèmes de conscience de certaines paroisses dans son diocèse, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire en sorte que pour les traditionnalistes, eh bien, cette femme ne soit pas vraiment l'évêque diocésain et qu'on puisse... Bon, on interdit totalement ce genre de choses. Donc l'autorité de l'évêque diocésain reste pleine et entière, que ce soit un homme ou une femme. Les paroisses qui ne peuvent pas accepter son ministère sont invitées à ce moment-là à voter une résolution dans le conseil paroissial, la majorité des deux tiers, demandant justement à bénéficier d'un arrangement particulier. Cet arrangement particulier, normalement prendre la forme d'une relation pastorale déléguée quelque part, même si le mot n'est pas employé dans la déclaration, déléguée par l'évêque diocésain ou diocésaine, c'est elle qui choisira dans la chambre des évêques un évêque dont le ministère est acceptable pour la paroisse en question. Et c'est cette personne qui, du coup, aura la relation pastorale et sacramentelle avec la paroisse. Mais ça ne remet pas en cause l'autorité et la juridiction de l'évêque diocésaine.
Ces derniers temps, on assiste à un rapprochement entre l'Église anglicane et l'Église catholique. Notamment, il y a eu une rencontre mi-juin entre l'archevêque de Canterbury et le pape François. Quelles vont être les conséquences sur cette relation si le vote est positif ?
Là encore, je ne pense pas que les conséquences sur la relation entre anglicans et catholiques va beaucoup s'en ressentir. Parce que, de nouveau, la relation entre anglicans et catholiques, ce n'est pas limité à la relation entre l'Église d'Angleterre et l'Église de Rome. Donc, dans les relations anglicanes catholiques, on est bien déjà obligé de prendre en compte le fait qu'il y a des femmes évêques dans la communion anglicane. C'est vrai que avec autant le nouveau pape que le nouvel archevêque de Canterbury, le ton du dialogue entre les deux communions est meilleur. Je ne vois pas pourquoi ça changerait.
Rémi Bettemont, professeur d'histoire et civilisation britannique à Paris 8. Un enfant sur cinq est victime d'abus sexuels dans le monde. Le Bureau international catholique de l'enfance lance un programme de 3 ans pour lutter contre ce fléau. Brésil, Cambodge, Côte d'Ivoire, Russie, Ukraine, une vingtaine de pays sont concernés. Le 11 avril dernier, le pape François a reçu une délégation du BICE en audience privée à Rome. Il a encouragé cette organisation dans la poursuite de ses actions de protection des mineurs. Le BICE intervient dans de nombreux pays comme le Népal, par exemple, où un nombre important de femmes et d'enfants sont abusés sexuellement et souffrent d'exploitation ou de violences domestiques dans un contexte d'inégalité sociale, politique et économique. Malgré une loi sur les violences domestiques, ces abus perdurent souvent dans le cercle familial. Or, les personnes ayant subi des abus ne trouvent pas de services répondant à leurs besoins physiques et psychologiques. Le BICE a mis en place un projet en 2011 pour combler ce vide. L'objectif est de sensibiliser les communautés et d'inciter les autorités à apporter une réponse à ce fléau. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français. Bonne fin de semaine à tous.